Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. C'est déjà demain lundi, l'élection des gouverneurs des provinces, notamment celui de Kinshasa. Entre-temps, les organisations de la société civile et les mouvements citoyens rappellent les députés provinciaux la lourde charge qu'ils ont à travers le vote à opérer. L'Assemblée provinciale citoyenne exhorte par ailleurs la CENI à organiser un scrutin crédible, transparent et apaisé. Le taux de connaissance des gisements miniers en RDC s'avère très faible selon les experts. Cela au regard du potentiel du sous-sol congolais qui reste encore caché. Ceci ressort de la conférence minière de la semaine française de Kinshasa, conférence clôturée vendredi 26 avril. Et puis, le parc national des Virunga, le plus vieux de la RDC et de l'Afrique, totalise 99 ans d'existence depuis sa création par l'administration coloniale. Il couvre une grande partie du Nord Kivu. Cependant, ce site rencontre des défis liés à sa conservation. Pour en parler, nous recevons Méthode Ouosé, directeur des relations extérieures du parc national des Virunga. Parlons d'abord de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Sachez que le calendrier est désormais connu. Le bureau d'âge fixe pour mercredi 8 mai prochain l'élection des membres du bureau définitif. Christophe Mbosso, président du bureau provisoire, a signé hier soir la décision fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. D'après le secrétaire rapporteur du bureau provisoire qui a présenté ce calendrier, toutes les candidatures devront être déposées du mardi 30 avril au jeudi 2 mai, alors que la campagne électorale aura lieu du lundi 6 au mardi 7 mai prochain. Écoutez plutôt Persine Zazi Oumba au micro de Michel Kifindangoy.
La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneurs, d'un jour férié légal et des week-ends. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai, examen de dossiers de candidatures. Samedi 4 mai, affichage des listes de candidats retenus. Lundi 6 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation officielle du bureau définitif. Sous peine d'irrécevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement des candidatures signée par le parti ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae. Détaillé toute candidature déposée après le délai fixé est déclarée irrécevable.
Madame, Messieurs, bonjour. À la veille de l'élection des gouverneurs des provinces, notamment celui de la ville province de Kinshasa, les organisations de la société civile et les mouvements citoyens réunis dans l'Assemblée citoyenne rappellent les députés provinciaux la lourde charge qui leur incombe à travers le vote qu'ils vont opérer au nom et pour le compte de la population kinoise. Pour ces organisations, le gouverneur et le vice-gouverneur à élire doivent impérativement répondre au profil, entre autres, d'une bonne gouvernance et moralité. L'éthique et l'efficacité dans le management, l'expérience avérée dans l'administration, la rigueur ainsi que la discipline. La déclaration de ces organisations est lue ici par Christian Mukeni, propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Vous êtes sans ignorer que la population kinoise que vous représentez est écrasée par une multitude de problèmes, parmi lesquels la problématique du transport en commun et la réglementation du tarif, l'insécurité caractérisé par le banditisme urbain, le manque de cimetières publics urbains, la pollution sonore, l'insalubrité, le délabrement des routes, le manque d'une politique efficace d'assainissement, l'absence d'une politique de proximité pour la gestion des incendies dans chaque commune, le manque de parking public, le manque des espaces récréatifs pour les jeunes. Pour apporter des solutions aux problèmes susmentionnés, le gouverneur et le vice-gouverneur que vous allez élire doivent impérativement répondre au profil dont les éléments constitutifs sont la bonne moralité, la bonne gouvernance, la capacité de fédérer, le management efficace, l'éthique, la compétence, la rigueur, la discipline, le leadership humain, l'expérience administrative avérée.
Pendant ce temps, dans la province du Kwango, 5 acteurs politiques saisissent la cour d'appel pour suspendre l'élection du gouverneur dans cette province. Il s'agit de Miloua Yanfou, Mania Kumayasi, Gauthier Mamona, Grace Mambote et Alexis Moutela. Le procès s'est ouvert vendredi à la cour d'appel du Kwango, qui a siégé en chambre de conseil en matière de référé suspension sur requête de ces derniers. Dans leur requête, l'avocat de la partie demanderesse, le bâtonnier Laurent Kalengi, relève la violation du principe de rotation des territoires dans la gestion de la province, un accord signé entre 24 acteurs politiques du Kwango en 2015. Un extrait de ses propos choisi par Irène Boma.
L'édit provincial sur la rotation, c'est-à-dire gérer la province de façon rotative par les 5 territoires, a été violé. Sur 5 territoires, 2 ont exercé. Mais maintenant que c'est le tour de Féchi, les autres disent non, on doit abolir la rotation. Alors nous étions obligés de pouvoir saisir la cour pour qu'elle puisse nous départager. C'est un édit, c'est une pratique. Si vous allez dans le Bas-Congo, c'est la même pratique partout dans toutes les provinces. Comment se fait-il que Kenge, moi je suis de Kenge, nous avons terminé notre mandat de 5 ans, c'est passé. Kasongolunda a terminé son mandat de 5 ans, c'est passé. Maintenant, c'est le tour des fiches. On dit non, c'est fini, il n'y a plus de rotation. Il faudrait qu'un indépendant prenne la province. Vous ne voyez même pas, même dans les montages du gouvernement, on tient compte des critères géopolitiques. Ça veut dire qu'on veut que toutes les circonscriptions électorales ou tous les citoyens congolais participent même à l'exercice du pouvoir. Un principe convenu de commun accord au Kwango, et tout d'un coup vous changez, vous dites non, ce n'est plus le tour des fiches, n'importe qui peut prendre. Mais si c'était fait déjà en amont, nous tous, nous serions candidats gouverneurs. Mais pourquoi au moment où c'est déjà en pleine compétition, vous allez changer les règles du jeu? Je pense que ce n'est pas quand même correct et ce n'est pas sérieux.
Le bâtonnier Laurent Kalengi ajoute que la requête vise notamment les candidats Willy Bituisila et Pacho Panda, ressortissants du territoire de Popokabaka. Du côté de la défense, on indique que cette démarche est inconstitutionnelle. Les avocats parlent simplement des sentiments ou de l'émotion dans le chef de la partie adverse. Entre-temps, la campagne électorale des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs a pris fin hier à Kalemi. La journée de samedi a été consacrée au discours de campagne des candidats gouverneurs devant les députés provinciaux, signalant que dans la province du Tanganyika, il y a 5 candidats gouverneurs, dont 2 femmes et 27 candidats sénateurs. Paulin Munanga.
La plupart des projets qui reviennent dans les discours des candidats, c'est notamment la réhabilitation en priorité des routes nationales et des routes de desserte agricole pour désenclaver la province du Tanganyika et permettre l'acheminement sans difficulté des produits agricoles. Les candidats ont évoqué aussi la nécessité de réhabiliter les ports de Kalemi compte tenu des réalités dues au changement climatique ainsi que la modernisation de la pêche sur les lacs Tanganyika. Il y a aussi la lutte contre le chômage par la création de l'emploi en promouvant l'entrepreneuriat des jeunes, l'assurance de l'autosuffisance alimentaire par l'agriculture, la pêche et l'élevage. Certains candidats gouverneurs prônent pour une collaboration harmonieuse entre l'exécutif et les législatives provinciales, gage de la réussite de leur programme une fois élus. Signalons que la gestion de la province du Tanganyika dans les années antérieures est restée paralysée sur une longue période suite à un climat malsain qui a prévalu entre l'exécutif et l'assemblée provinciale. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Par ailleurs, sachez que la CENI a reporté au 8 mai prochain l'élection des sénateurs dans la province de l'Ituri, élection qui était prévue pour demain lundi 29 avril. Dans un communiqué publié hier, la centrale électorale justifie sa décision par le retard d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de l'Ituri, lui demandant de réattribuer les sièges dans la circonscription électorale de Bunia et Irumu après avoir constaté l'inéligibilité à titre définitif de Thomas Lubanga et Kawapanga Mandro, ce conformément à la décision de la Cour constitutionnelle de septembre 2023. À Bunia, cette décision de la CENI a été annoncée au cours de la plénière d'hier par une motion du député Joachim Ngendo sans perturber le bon déroulement de la campagne électorale au sénatorial qui était presque à la fin. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri dit attendre une notification officielle de la CENI sur ce report de l'élection sénatoriale dans la province de l'Ituri. Je vous le disais en titre, 5 à 20%, c'est le taux de connaissance des gisements miniers en RDC selon les experts. Cela est très faible au regard du potentiel du sous-sol congolais qui reste encore caché. Comment alors inverser la tendance? C'est l'un des points qui a marqué la conférence minière de la semaine française de Kinshasa, conférence clôturée vendredi 26 avril. Le compte-rendu de Cynthia Bachizi.
Environ 50% de l'économie congolaise dépend du secteur minier qui est véritablement la locomotive socio-économique du pays. Pour autant, plusieurs défis constituent des freins à la pleine expansion de ces secteurs. C'est d'abord le déficit énergétique. Beaucoup de miniers au Katanga achètent l'électricité à l'étranger, notamment en Zambie, pour faire face à cette situation. C'est ainsi que la société Ivanhoe a annoncé, par exemple, financer la réhabilitation d'une turbine au niveau du barrage d'Inga. Autre défi, c'est la faible connaissance des gisements. Hervé Tevenio est un expert géologue. Il représente BRGM, une société française qui veut collaborer avec les autorités congolaises.
Tout ce qui est exploité à l'heure actuelle est ce qui a été découvert depuis un siècle, sans qu'il y ait eu de grands programmes de recherche à l'échelle générale du pays qui permettraient de mettre en évidence des potentiels qui sont à l'heure actuelle cachés, puisque ce que l'on exploite, c'est ce qui était, je dirais, affleurant, donc visible. Maintenant, il faut aller rechercher ce qui est caché, plus ou moins grande profondeur. Ça peut être à 2 mètres comme à 200 mètres.
Il faut donc aujourd'hui travailler à l'attrait des investisseurs, car la RDC ne capte pas assez des capitaux pour découvrir de nouveaux gisements qui peuvent pourtant conduire à des mines de classe mondiale.
Sachez que l'objectif principal de cette 8e édition est de proposer des rencontres entre les entreprises françaises et les entreprises présentes en RDC. Tout au long des travaux, les participants et visiteurs ont pu rencontrer les décideurs économiques. Ils ont échangé avec les autres entreprises. Ils ont découvert au travers des stands les services, les produits et le savoir-faire, sans oublier les différentes conférences qui étaient organisées. Direction le Nord Kivu, le plus vieux parc national de la RDC et de l'Afrique, a totalisé le 21 avril 2024 99 années d'existence depuis sa création par l'administration coloniale en 1925. Il s'agit du parc national des Virunga. Il couvre une grande partie de la province du Nord Kivu, s'étend sur 790 000 hectares. Il regorge d'une diversité d'habitats à valeur exceptionnelle, allant des marécages et des steppes jusqu'aux neiges éternelles du Rwenzori à plus de 5000 mètres d'altitude. Bernardin Nyangi nous peint ici la cartographie de ce site.
Sur le plan environnemental, le parc national de Virunga se distingue notamment par sa chaîne de volcans actifs Nyiragongo et Nyamulagira dans la partie sud du parc. Une grande partie de la même chaîne de Virunga regorge de volcans dormants tels Mikeno, Karisimbi et Sabinho le long de la frontière respectivement avec le Rwanda et l'Ouganda. Cette partie est l'habitat naturel de l'unique population de gorilles de montagne au monde, l'espèce à l'origine de la création du parc en 1925. La zone de savane de la partie centrale du parc, longeant la vallée de la Rwindi, la rivière Rutshuru et la partie sud du lac Édouard, abrite une population diversifiée d'ongulés comme l'okapi, espèce endémique des mammifères sauvages comme les éléphants, les hippopotames, les buffles et autres espèces rares. La partie nord du parc regorge d'une exceptionnelle végétation afro-alpine unique et de champs de glace qui recouvrent les divers monts de Rwenzori, dont le pic le plus élevé culmine précisément à 5109 mètres d'altitude. Certains des paysages de vallées et de montagnes les plus spectaculaires d'Afrique, y compris des infrastructures touristiques qui y sont implantées, confèrent au parc national de Virunga le statut de première destination touristique en RDC. Malheureusement, le dit parc se situe au cœur même du conflit armé le plus meurtrier. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les forces armées de la RDC appellent les jeunes filles et garçons à adhérer massivement à la réserve de l'armée et de la défense, RAD en sigle, une structure d'appui à l'armée congolaise en temps de guerre comme en temps de paix. La RAD envisage récupérer certains jeunes patriotes pour les initier à plus de patriotisme ainsi qu'à d'autres métiers pour des actions de développement comme agents effectifs de l'État. Cet appel est lancé par une équipe de sensibilisation de la RAD partie de Kinshasa pour le Sud Kivu ou pour cette cause. Le colonel Soupir Malumba, directeur AI chargé de sensibilisation, d'organisation, de formation et d'entraînement de la RAD, explique au micro de Emmanuel Elamegi.
La mission principale de la RAD, c'est renforcer les FRDC, tant en temps de paix qu'en temps de guerre. En temps de guerre, la RAD renforce les FRDC avec des réservistes. La RAD est là pour entretenir maintenant l'esprit de défense. De niveau supérieur, je vais appeler à tout le monde de ne pas considérer toujours les Wazalendo dans la connotation péjorative aux forces négatives. Ce ne sont pas des forces négatives parce que ce sont des gens qui ont un esprit de défense et qui peuvent bien défendre le pays au-delà de ce qu'ils ont déjà fait. Et l'autre pilier, c'est le pilier production. La RAD a mis en place un programme d'industrialisation intégrée. C'est là où nous aurons beaucoup d'unités de production. Nous aurons même des brigades agricoles, des brigades d'élevage, des brigades de restauration environnementale et on mettra en place un système de chambres de métiers dans chaque province. On aura à aider l'armée dans beaucoup de choses. Parce qu'en temps de paix, l'armée doit participer au développement du pays.
Culture à présent. La ville de Beni accueille ce dimanche 28 avril la première édition du concert musical dénommé Peace One Day, initié par l'artiste musicien local Joël Bahania en collaboration avec certains partenaires. Cette activité connaîtra la participation d'au moins 10 artistes de Beni. Elle se tient au stade du 15 octobre. Objectif, sensibiliser pour la paix et la pacification de la région de Beni à travers la chanson. Joël Bahania en parle de l'importance de ce concert au micro de Marc Marofimbo.
On vise réunir tous ces jeunes, on vise réunir notre public, on vise également la pacification, également notre union. Parce que depuis un moment, on disait que les artistes ne sont pas toujours ensemble. Les artistes sont vus toujours dans des polémiques. Mais aujourd'hui, on s'est dit que nous devons finalement travailler ensemble. Voilà pourquoi c'est dimanche. On invite tous les fanatiques de Beni, les mélomanes de la bonne musique, de venir participer dans cet événement qui va réunir presque 60 à 80% des artistes légendaires de Beni. On veut prouver à la face du monde qu'à Beni il y a d'abord des talents et que malgré tout ce qui se passe, les atrocités, les enfants de Beni espèrent un jour que la paix va revenir. Tout ce qui se passe à Beni, d'abord la première chose, j'ai toujours dit que nous n'avons rien. Vivre ensemble, c'est la meilleure chose dans le monde. À part ça, la haine persiste dans nous. Mais ensemble avec tous ces artistes, nous avons décidé d'être ensemble parce que nous pensons que nous devons être exemplaires. Donc dans la musique, nous devons également avoir cet esprit-là de travailler ensemble pour que Léo Amakesho Twendembele.
Actualité internationale.
Nous sommes au Gabon. Le dialogue national touche à sa fin. Ces grandes assises organisées par les autorités après le coup d'État du 30 août dernier avaient pour but de proposer une série de réformes en profondeur sur les plans politiques, économiques et sociaux. Après quasiment un mois de travaux, des profondes réformes, notamment politiques, ont été proposées.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le directeur des relations extérieures du Parc national des Virunga. Au moment où ce site du patrimoine mondial totalise 99 ans d'existence, il nous parle des défis liés à sa conservation. Méthode Ouosé revient également sur les efforts d'atténuation de toutes les menaces qui affectent le parc. Il est avec Bernardin Nyangui.
Monsieur Méthode Ouosé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le parc national de Virunga vient de totaliser 99 ans d'existence, bientôt sera 100 ans. Pour commencer d'abord, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire aujourd'hui par rapport à sa conservation?
Pendant ces 99 ans, il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées. Il y a eu le haut et le bas. Donc, il y a eu une période où tout se passait très bien. Mais aussi, il y a des périodes où il y a eu beaucoup de défis, beaucoup plus lié à l'insécurité et à tous les autres aspects qui ont frappé la province du Nord Kivu. Mais sur le plan de conservation en général, on peut se féliciter du fait que aucune espèce du parc n'a disparu pendant les 99 ans.
Donc on peut dire sur le plan général, le parc a su quand même conserver l'essentiel de sa richesse ou de sa valeur biologique.
Oui, effectivement. Donc, la valeur biologique a été conservée. Mais cependant, il y a juste des défis beaucoup plus liés à l'intégrité. Il y a certaines zones qui ont été légalement occupées, qu'on estime aujourd'hui à 13% de la superficie du parc envahie.
Mais envahie comment?
Ces zones ont été envahies parfois par l'agriculture, parfois par les habitations. Mais vous comprendrez que tous ces envahissements ont un lien direct avec la situation sécuritaire. C'est beaucoup plus les zones occupées par les seigneurs de guerre qui ont, avec le temps, subi des déforestations et après, il y a l'agriculture qui s'y pratique. Mais nous sommes en train de travailler pour que d'ici 2025, à 100 ans d'existence du parc, on arrive à réduire tant soit peu ces envahissements. Car on a constaté que tous ces envahissements et toutes les menaces que subit le parc sont dues au contexte de la région. où on sent une forte démographie, mais aussi c'est toutes les ouvertures possibles, donc les frontières avec les pays voisins qui attirent beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes impliquées dans les commerces illégaux des ressources du parc. Mais aussi, il y a un deuxième aspect, c'est la pauvreté. Donc, vous constaterez que les communautés qui vivent autour du parc sont en majorité pauvres. Ça fait que pour survivre, ils sont obligés d'exploiter illégalement les ressources du parc afin de subvenir aux besoins de leur famille.
Et cela prend en compte l'implantation des champs dans le parc, l'exploitation de charbon, de bois, de planches et consorts, et même du lac.
Oui, oui. Donc ça tourne autour de la pêche illicite, du braconnage, des occupations des espaces du parc, mais aussi les charbons de bois. Vous comprendrez avec moi qu'il y a une étude qui a été réalisée et qui a prouvé que uniquement pour le charbon de bois qui est exploité illégalement dans les parcs, le coût de cette économie est évalué à près de $1 million le mois. Donc c'est autant des sacs de makala qui sont en train d'être utilisés dans toutes les villes autour du parc, qui proviennent du parc. C'est un grand défi. Et tout ça a amené le parc à mettre en place des mesures d'atténuation de toutes ces pressions.
On voulait savoir, puisque on voit quand même pendant ces années aussi, il y a un développement d'un certain nombre de projets autour du parc. Et cela, ça peut avoir quel impact?
Effectivement, comme je l'ai dit au début, pour atténuer toutes les pressions sur le parc, il faut travailler sur le problème de l'économie des ménages des populations autour du parc. C'est là qu'est venue l'idée du programme Alliance Virunga, que le parc a mis en place, un programme de développement pour la paix et la stabilisation. C'est-à-dire, on a pensé que si on arrive à créer de l'emploi autour du parc, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes impliquées dans le commerce illégal des ressources vont s'orienter vers le métier qui sera créé. Ce grand programme d'Alliance Virunga se base sur 4 grands piliers, et notamment les piliers du tourisme. Malheureusement, chez nous, ces piliers n'ont pas encore pris de l'ampleur à cause de la situation sécuritaire. Parce que pour faire le tourisme, il faut s'assurer qu'il y a la sécurité qui vient derrière.
Monsieur Méthode Wosé, je rappelle que vous êtes le directeur des relations extérieures du site de Virunga. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Bernardin Nyangui. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.